25 millions de propriétaires. Une émission présentée par Pierre Otus sur Radio Immo.
Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 25 millions de propriétaires, l'émission par les propriétaires, pour les propriétaires et bien sûr pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la propriété privée. Le thème de l'émission, justement aujourd'hui, c'est la propriété privée, une valeur à défendre. Faut-il défendre le droit de propriété aujourd'hui? Alors la propriété, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord la liberté, c'est une valeur constitutionnelle qui est évidemment à protéger, qui est dans notre bloc de constitution, de constitutionnalité. C'est un acquis surtout de la Révolution française en 1789, dont le premier slogan était liberté, égalité, propriété privée. Il ne faut pas l'oublier que c'est une conquête, un acquis du peuple contre le tyran, la volonté de se libérer d'un système féodal de détention captif et fermé. Alors aujourd'hui, il ne s'agirait pas de retomber dans un système où l'État deviendrait un nouveau tyran, tendant à se soustraire à la liberté des citoyens, d'être propriétaire en l'oppressant et créant un cadre collectiviste malheureux. Il faut donc protéger cette liberté. La propriété, c'est aussi préparer l'avenir, c'est un moyen de préparer sa retraite et de transmettre aux générations futures un patrimoine constitué dans le temps long. C'est un investissement populaire, accessible, physiquement palpable, que ce soit des immeubles, des terres ou de la forêt, nous le verrons dans la suite de l'émission, avec ce formidable levier qu'est l'emprunt, permettant à chacun d'accéder à la propriété pour soi-même ou pour louer. Il y a un lien physique quasiment charnel, presque fusionnel entre les propriétaires et leurs biens, leurs immeubles. Et si l'on parle d'immobilier, disons que les Français sont nés avec une brique dans le ventre. C'est ce que l'on entend souvent dans le milieu de l'immobilier. Si on parle de terre ou de forêt, c'est le rapport à la nature qui revient le plus souvent. Et les moments de crise nous le rappellent. Lorsque les citadins, les métropolitains s'imaginent que la campagne est leur jardin dominical, sans imaginer qui entretient, qui investit, qui cultive ces territoires, ces terres et ces forêts où on va parfois cueillir des champignons. Alors, lorsque ce droit constitutionnel est atteint et bousculé, les réactions sont parfois dures. Nous le voyons ces derniers jours avec les cas très médiatisés de squats qui reviennent, mais aussi avec la question du paiement des loyers ou de la trêve hivernale qui a été prolongée de 2 mois. Et c'est d'ailleurs présenté aujourd'hui en Conseil des ministres pour les locaux d'habitation. Et plus généralement sur les questions d'expropriation, c'est quelque chose qui est souvent très mal vécu par les propriétaires, de se faire exproprier de leurs biens, de leurs terres, de leurs forêts, pour des cas qui ne sont pas toujours justifiés. Alors la propriété, c'est la liberté, mais c'est aussi des contraintes réglementaires, ce sont des contraintes fiscales, une pression fiscale certaines, parfois intenables, dans un pays où persiste un impôt sur la fortune immobilière. L'État ne devrait-il pas mieux s'occuper de l'essentiel et ne plus se substituer à la société civile en lui donnant les moyens de se développer? L'administration n'a-t-elle pas atteint ses limites? L'hyper-administration n'a-t-elle pas atteint ses limites? Nous allons en parler avec nos invités, que j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Alors nous avons Jean-Étienne Rime, président de Francilva des Pays de Loire et membre du bureau de Francilva National, Bertrand Trépeau, vice-président de la Fédération Nationale des Propriétaires Privés Ruraux, Olivier de Lorgeril, président de La Demeure Historique, et Jérôme de la Romiguière avec nous en plateau, propriétaire forestier qui nous partagera son expérience. Et je vous propose donc tout de suite d'échanger avec ce propriétaire forestier qui va nous expliquer les enjeux de cette responsabilité et, je l'espère, vous encourager à suivre sa voie.
25 millions de propriétaires, le grand témoin.
Alors Jérôme de la Romiguière, bienvenue.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Vous êtes donc propriétaire forestier. Expliquez-nous en quoi ça consiste, comment vous exploitez cette forêt, quels sont les enjeux pour nous témoigner un peu de cette activité noble qui est l'entretien et l'acquisition de la forêt.
Merci de m'accueillir dans cette émission. La gestion forestière, ça consiste tout d'abord dans la rédaction d'un document de gestion qui est nécessaire sur le plan légal, parfois justement pour accéder à cette fiscalité particulière qui tourne autour de la forêt. Et dans ce document de gestion, grossièrement, nous établissons un calendrier des coûts, des travaux, des plantations sur les 25-30 prochaines années. Et nous sommes accompagnés par un expert forestier qui nous conseille dans nos choix. Et après, durant la durée du plan ensemble de gestion, on le met en place en marquant des coupes, en effectuant les travaux sylvicoles, en réalisant des plantations et une surveillance en ce moment, notamment sur le plan sanitaire, parce que nous rencontrons quelques difficultés avec certaines attaques, notamment liées aux scolytes.
Les parasites.
Les parasites, tout à fait.
Très bien. Jean-Étienne Rime, vous êtes le président de France Silva pour les Pays de la Loire, et puis vous avez des responsabilités au niveau national de France Silva National, cette fédération des forestiers français. En préparant cette émission, nous avons échangé un peu sur l'avenir un peu de cette forêt, de cet investissement dans le temps ultra long. On parle en immobilier d'un temps long à 30 ans, mais alors la forêt, c'est bien plus, c'est plus d'une centaine d'années bien souvent. Est-ce que vous pouvez, alors tout d'abord, présenter France Silva, quelles sont vos activités, comment vous assistez les propriétaires, et puis rattacher ça un peu au témoignage que nous venons d'avoir avec Jérôme Delormiguière.
Oui, merci beaucoup. France Silva, c'est la Fédération nationale des propriétaires forestiers privés. Ça s'appelle France Silva parce que nous avons décidé de créer une véritable marque pour pouvoir faire non pas la défense, mais plus la promotion de la forêt privée française. Cette marque, aujourd'hui, elle réunit dans l'ensemble des départements français les propriétaires qui représentent un tiers de la surface française. La forêt fait un tiers de la surface française et 75% de la surface française appartient à des propriétaires privés. La grande idée, et je rejoins ce que vient de dire votre invité, c'est que la propriété forestière, c'est une véritable gestion et c'est une véritable responsabilité. Moi, j'ai tendance à dire que nous ne voulons plus en forêt de propriétaires forestiers. Mon propos n'est pas crypto-marxiste, c'est tout simplement dire nous voulons des sylviculteurs. Qu'est-ce qu'un sylviculteur ? Un sylviculteur, c'est avant tout un propriétaire forestier, bien sûr, la propriété privée, mais plus, c'est quelqu'un qui a une responsabilité de gestion économique, et Jérôme l'a bien démontré, un plan simple de gestion, c'est la vision économique à moyen terme, une responsabilité environnementale. Aujourd'hui, la forêt capte, par exemple, est le premier capteur de CO2 en France, le premier capteur de CO2 terrestre. C'est le premier purificateur d'eau. C'est le premier acteur de la biodiversité. Vous voyez, les oiseaux ont disparu. Il y a 20% d'oiseaux qui ont disparu en France. Il y a 0% qui a disparu dans la forêt. Dernière chose, nous avons une responsabilité sociale aussi. Sachez que nous sommes à l'amont d'une filière qui représente 450 000 emplois en France, autant plus même que la filière automobile. Donc, ce sont ces responsabilités de propriétaires engagés pour l'avenir et pour la transmission qui caractérisent France Silva et la propriété privée française sylvicole.
Alors, merci. Vous parliez justement d'intérêt social. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, j'ai l'impression, dans le domaine de l'immobilier en général, puisque la forêt n'est pas un bien meuble, en tout cas jusqu'à ce qu'elle soit coupée, elle ne l'est pas. C'est important de rappeler toute l'économie qui gravite autour de cette forêt, au-delà d'ailleurs de ses engagements environnementaux, de sa nécessité de captage de CO2, etc. Est-ce que vous ressentez, dans le discours un peu collectif, une image un peu tronquée, en tout cas méconnue, de la part du pouvoir public, mais aussi des citoyens, des gens qui s'y promènent, qui vont parfois aux champignons, qui vont promener leurs chiens, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui remonte beaucoup, cette image un peu tronquée, un peu méconnue?
On a une vision terriblement fausse de la forêt. La forêt, vous posez la question à nos concitoyens, elle appartient à tout le monde. Et vous parliez de promener son chien. Eh bien, vous ne promenez pas votre chien dans une forêt privée parce que c'est un domaine privé. Et vous ne le promenez pas parce que vous n'avez pas le droit d'y rentrer, mais en plus parce que vous pouvez y causer des dommages. La forêt, aujourd'hui, est un lieu qui doit être préservé, c'est un lieu de production. Vous n'auriez pas baladé votre chien dans un champ de maïs, eh bien, c'est exactement la même chose. Vous avez aussi des risques d'accidents, des risques sanitaires. Hein, on parle beaucoup de maladies de Lyme ou de choses comme ça. Donc, on ne peut pas rentrer dans une forêt. Et le véritable problème, c'est que la société s'est appropriée la forêt, est en train de nous dire « ne faites pas de coupe rase », ce qui est complètement débile en ce sens que des coupes rases, on les assimile aux coupes rases qui existent en Amazonie pour semer ou planter du soja. Hein. Nous, quand on fait une coupe rase, c'est pour récolter et replanter derrière. Bien sûr, une coupe rase, c'est un paysage lunaire. Deux ans après, c'est un paysage magnifique. Et aujourd'hui, récolter du bois, c'est éviter d'importer des matériaux qui viennent de l'étranger, c'est éviter d'importer de l'énergie, c'est construire avec du bois. Vous savez qu'un mètre cube de bois, c'est une tonne de CO2 qui est séquestrée. Bref, c'est complètement sain. Mais on a besoin de le faire savoir et d'éviter d'avoir ces folies d'écologistes ultra-radicaux qui, comme dans le domaine animal, sont en train d'attaquer la forêt. Et ça, on ne peut pas le supporter. On a besoin de communiquer, on a besoin du soutien des pouvoirs publics, on a besoin d'expliquer. Et quand on explique, quand on fait visiter nos forêts, quand on raconte l'ensemble de notre rôle, nous sommes convaincants et nous arrivons à changer les états d'esprit. C'est vraiment important. Arrêtons de comparer la forêt française à l'Amazonie. Et la forêt française est en croissance, même si elle a des difficultés. Jérôme l'a expliqué avec la question des scolytes. Aujourd'hui, nous avons des forêts entières qui sont dépérissantes pour des questions sanitaires. On a besoin de prendre les choses correctement. Et ça, les propriétaires forestiers le font et savent le faire.
Alors Jérôme, justement, Jérôme de la Romiguière, est-ce que d'une part, vous avez des difficultés avec des personnes qui viennent se promener dans vos forêts? Est-ce que ce sont des choses qui arrivent? Et puis, deuxième question, c'est dans l'entretien, une coupe, c'est tous les combien?
Alors, s'agissant de la première question, oui, on a des promeneurs, comme tout le monde, mais je pense qu'il faut être assez ajusté. Il faut également être dans l'accueil. En expliquant que les forêts, elles sont entretenues, qu'elles sont aménagées, qu'elles sont fragiles, et que par conséquent, quand certaines personnes viennent chez nous, on leur demande de respecter l'endroit dans lequel elles sont. Et je pense qu'instaurer un dialogue de cette façon, c'est assez constructif. Ensuite, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est le propriétaire forestier qui est responsable des dommages corporels qui sont causés à une personne qui se balade chez lui. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi rappeler. Et s'agissant je pense qu'il faut vraiment instaurer un vrai dialogue parce que dans la course à la communication sur la forêt, pour l'instant, je trouve que le monde forestier a des choses nouvelles à faire, parce qu'effectivement, la population s'intéresse à la forêt, et plus on leur dira « c'est nous qui avons raison et vous avez tort », plus ils se braqueront. Donc je pense qu'il faut instaurer un vrai dialogue.
Est-ce que vous pensez que des journées portes ouvertes de la forêt, comme on peut le voir avec les monuments historiques, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Olivier de Lorgeril, est-ce que ces journées portes ouvertes où les forestiers pourraient être présents dans les forêts, ça existe peut-être déjà d'ailleurs, est-ce que ce serait un moyen de communiquer et d'expliquer aux gens qui sont dans un endroit privé qu'il faut le respecter et d'ailleurs pas forcément aller partout où ils veulent?
Oui, je pense qu'il y a des initiatives qui existent déjà, c'est une chance. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Ensuite, je pense qu'il y a différents... Il faut un peu diviser la forêt. Il y a déjà les forêts publiques qui accueillent l'ONF, qui représentent un quart des forêts domaniales et communales et... toutes les forêts du secteur public qui représentent quand même un quart et qui accueillent beaucoup de nos concitoyens. Et oui, je pense qu'il faut instaurer un dialogue avec les propriétaires forestiers privés. J'ai pas connaissance d'initiatives particulières, mais j'imagine que France Silva travaille là-dessus. Et pour moi, ça me paraît primordial pour instaurer un dialogue de confiance, pour expliquer ce qu'est une coupe rase, ce qu'est un îlot de sénescence, parce que dans les forêts privées aussi, on préserve des îlots dans lesquels on ne pratique pas de coupe, on laisse, ça existe. Il y a différentes sortes de gestion, adaptées à différents marchés, adaptées à différentes essences, différents sols. C'est beaucoup plus complexe, il faut intégrer de la complexité, parce que c'est pas un monde binaire, c'est bien, c'est pas bien. Voilà. Et pour répondre à vos questions sur les coupes, tout dépend de l'essence. Généralement, quand on plante un arbre, il y a plusieurs stades. On fait d'abord des coupes, des éclaircies, puis une récolte finale, et ça se fait sur le temps long. On peut distinguer essence résineuse et essence feuillue. Essence résineuse sur le temps moyennement long pour la forêt, c'est-à-dire on va prendre 50 ans, il faut que ça puisse rentrer dans les scieries industrielles. Et puis pour les feuillus, sur le temps beaucoup plus long, avec des durées qui peuvent aller, enfin, ça dépend des feuillus, mais jusqu'à 100, 120 ans,
voire
plus.
C'est un temps long, ce n'est pas un temps spéculatif du tout.
C'est un beau travail, parce que c'est un travail pour les générations futures, et qu'on pense, c'est très positif, je trouve, aujourd'hui, de penser le temps long.
Bien sûr. Sans transition, Bertrand Trépeau, alors on se situe dans un domaine un petit peu connexe ou un peu différent, mais pas très loin, puisque les champs sont rarement loin des forêts. Et les vignes, puisqu'on a affaire à un viticulteur, si je ne dis pas de bêtises, Bertrand Trépeau, donc vous êtes le vice-président de la Fédération nationale des propriétaires privés ruraux. Qu'est-ce qu'on peut faire comme lien avec la gestion de la forêt, la relation alors, avec les preneurs, pour le coup, quand c'est en location, ou les cultivateurs en direct, et cette appropriation par les publics de ce monde rural, de ces champs. Moi-même, fils d'agriculteur, je sais qu'il y a souvent des cas de gens qui habitent maintenant dans les campagnes et qui se promènent dans les champs et qui ne voient pas, qui sont semés, qui causent des dégâts assez énormes. Le lien aussi avec la chasse, de régulation de la faune, etc. Chez les propriétaires ruraux, quel est votre accueil? Comment vous fonctionnez pour vos adhérents?
Alors, tout d'abord, quelques chiffres pour replacer un peu ce que représente la propriété privée rurale. Nous, on est d'abord par vocation détenteur d'un capital foncier qu'on met à disposition, pas que, mais principalement des agriculteurs et des viticulteurs du pays pour leur activité. Et aujourd'hui, on peut considérer en France qu'il y a environ 450 000 exploitants agricoles ou viticoles pour 5 millions de propriétaires. Grosso modo, quand on présente aujourd'hui la propriété privée rurale, on dit que pour un exploitant, il y a 10 propriétaires. C'est facile à retenir. On a effectivement des lignes de force communes avec ce qui vient d'être dit concernant la forêt. Déjà, la gestion sur le temps long, le fait de travailler pour les générations futures, d'être dans une logique toujours de transmission et donc de conservation ou d'amélioration du potentiel agronomique de nos terres ou de nos vignes. Il y a aussi cette thématique d'instaurer le dialogue parce que nos champs et nos vignes, eh bien, ils intéressent de plus en plus. J'ai envie de dire pour le pire et pour le meilleur. Pour le pire, parce que des fois, on nous donne des leçons sur la façon de gérer nos biens. Et puis, pour le meilleur, parce que on peut dire que ça peut aller avec une prise de conscience de l'importance de ce patrimoine et de le sauvegarder. On va dire qu'il y a un peu les deux côtés. Ça remet, bien entendu, et on vient d'en parler, en cause de la communication traditionnelle de nos syndicats, qu'on a organisé avec une fédération nationale et des syndicats départementaux. Je vous en dirai deux mots, mais l'activité principale des syndicats départementaux, c'est d'aider nos propriétaires dans leurs relations avec leurs preneurs, avec leurs locataires. Mais on a cette nouvelle dimension de communication, de changer, d'instaurer un dialogue, de pas chercher à avoir raison. Là aussi, hein, je crois qu'on est vraiment dans le même esprit. Il faut surtout expliquer les enjeux qui sont liés à ce patrimoine agricole ou viticole. On a donc un cas particulier puisque au lendemain de la guerre et pour des raisons de suffisance d'assurer la souveraineté alimentaire du pays, eh bien la relation que nous avons avec nos locataires, eh bien se passe à travers le statut du fermage, qui est un statut qui va d'ordre public, qui va eh bien limiter la liberté des co-contractants sur la durée du bail, sur le montant du loyer et surtout sur les conditions de renouvellement ou de reprise. Donc on a quand même un cadre qui est toujours très très rigide, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui eh bien on a pas mal de discussions avec les pouvoirs publics pour dire ce cadre il date d'après-guerre, l'agriculture elle a beaucoup changé, probablement que pour maintenir une relation et un équilibre entre propriétaires et locataires, il faudrait amender deux trois choses. Voilà pour le cadre général de notre action.
Alors, c'est intéressant parce que vous parlez de patrimoine, et ça me fait une transition toute faite, et on reviendra sur la propriété rurale dans un deuxième temps, bien sûr, avec Olivier de Lorgeril. Votre association, votre fédération, La Demeure Historique, en deux mots, qu'est-ce que c'est et comment vous vous inscrivez dans la pérennité du patrimoine? Comment vous aidez les propriétaires, j'imagine, de monuments historiques à pérenniser ce patrimoine, ce qui est assez lié à l'activité qu'on a, nous, à l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, dans la préservation du patrimoine, en faisant des travaux, en entretenant. Mais là, on se situe moins dans une relation locative, nécessairement.
Alors, tout à fait, je souscris tout à fait à ce qui a été dit par les précédents intervenants. Donc, très rapidement, La Demeure Historique est une association ancienne nationale qui regroupe à peu près 3000 propriétaires gestionnaires de monuments historiques privés. Donc, petit point, les monuments historiques privés sont des monuments qui sont donc protégés au titre de la loi, ce qui donne un certain nombre d'obligations, notamment fiscales. Donc, effectivement, les monuments historiques, si vous voulez, de par ce statut particulier, doivent être force de proposition auprès des pouvoirs publics. Ça, c'est notre mission principale. Pour ce faire, on a un certain nombre de partenaires, notamment en région, donc près de 200 bénévoles qui œuvrent donc pour aider ces propriétaires privés. Nous avons un certain nombre de thématiques au sein de La Demeure Historique, 9 thématiques, et bien évidemment, une des principales, c'est la transmission. La transmission de nos monuments, vous avez un certain nombre de chiffres qui paraissent dans la presse.
D'accord. Alors, on a perdu Olivier de Lorgeril, c'est pas grave. Je vais faire réagir à nouveau Bertrand Trépeau, notamment sur le cadre légal. Vous parliez de la relation locative qui est parfois difficile, en tout cas son cadre, pas forcément avec le locataire en tant que tel, mais le cadre défini après-guerre qui n'est plus tout à fait d'actualité. Est-ce que vous trouvez que l'équilibre avantages fiscaux potentiels, cadre législatif et réglementaire est bon? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer justement d'une part la relation locative par son cadre, mais peut-être aussi la situation fiscale de ces propriétaires ruraux qui mettent en location des terres?
Alors tout d'abord, en ce qui concerne ce cadre, effectivement, il était accepté historiquement par les propriétaires parce qu'il allait de pair avec des exonérations fiscales intéressantes en termes de transmission de patrimoine qui étaient liées à ces fameux baux à long terme que nous pouvions mettre en place avec nos preneurs. Bon, par contre, les choses ont changé. Ce cadre, grosso modo, il vous dit que jusqu'à un certain montant de patrimoine, vous êtes exonéré des 3/4 quand on calcule les frais de mutation. Et puis, au-delà d'un seuil, vous êtes plus qu'à la moitié. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que aujourd'hui, si vous êtes en société et qu'avec un pacte d'engagement de conservation de part, dit type pacte Dutreil, vous avez des exonérations de 75% sur toute la valeur. Donc, en fait, le régime général est presque devenu plus intéressant que notre régime particulier, si je puis présenter les choses comme ça, et qui pourtant était notre principale carotte fiscale pour essayer d'accepter le cadre extrêmement rigide qu'on a. On est arrivé donc à une situation où aujourd'hui un certain nombre de propriétaires, plutôt que de mettre en location leurs biens, préfèrent avoir recours à des prestataires sur leurs terres ou sur leurs vignes pour garder une liberté de gestion de patrimoine et de cession quand ils le souhaiteront et ne pas rentrer dans un cadre où les reprises sont particulièrement compliquées, avec des délais très longs, avec des conditions et puis notamment avec l'impact des fameuses SAFER qui sont des structures mises en place dans les années 60, qui sont des sociétés d'intervention qui peuvent aussi bien intervenir sur le prix que sur l'acheteur de votre bien quand vous en êtes vendeur. Donc voilà, on trouve que tout ça est très cher payé, si je puis dire, pour nos propriétaires privés ruraux et qu'il y a un vrai besoin de rééquilibrage.
Alors, est-ce que vous êtes entendu chez Julien de Normandie? Bon, ça fait pas très longtemps qu'il est ministre de l'Agriculture. Est-ce que c'est quelque chose qui est en discussion ou pas du tout, à l'heure où, justement, on parle beaucoup d'agroalimentaire, de ce qu'il y a dans nos assiettes? Comment, justement, rediscuter de tout cela? On parle des Grenelles de tout, maintenant, le Grenelle, enfin, le Beauvau de la sécurité, le Grenelle de la santé, le Ségur de la santé. On trouve toujours des noms assez amusants. À l'horizon de la fin du quinquennat ou dans un prochain quinquennat, Pensez-vous qu'il soit possible de remettre un peu en question tout cela, de restructurer, de remettre à jour ces relations entre bailleurs et preneurs et en tout cas la contrepartie fiscale qui est liée aux fortes contraintes?
Pour le moment, on n'a pas vraiment de bonnes nouvelles. Il y a eu trois choses pendant le quinquennat. Une première qui était un projet de loi foncière vraiment ambitieux, qui a fini pour le moment à l'état de projet et qui n'est jamais abouti et été traduit réellement en termes de loi, avec une vision, si je puis dire, à 360 de la situation pour pas uniquement prendre des petits bouts de la lorgnette sur tel ou tel point de la gestion du foncier rural. Il faut savoir bien entendu que le foncier, on parlait de la forêt qui, en comparaison avec l'Amazonie, déclenche certains fantasmes, l'agriculture, avec cette vision de terre nourricière et la prédation des Chinois, déclenche aussi sa part de fantasmes. Et donc, du coup, on a une loi foncière qui est restée dans les cartons. On a eu un projet de loi sur l'aménagement des baux ruraux qui nous semble plutôt intéressant, mais qui, pour le moment, n'aboutit pas. Et puis, on a une loi surprise qui est arrivée la semaine dernière et qui, elle, ne nous va pas du tout, qui est plutôt dans le sens d'aller rajouter encore plus de contrôle parce qu'il y a une véritable méfiance par rapport à la gestion de la propriété et notamment à travers les sociétés. Mais ce sont des images d'Épinal. Toutes les sociétés ne sont pas opaques. Toutes les sociétés, surtout avec aujourd'hui la réglementation qu'on a en France, ne serait-ce que par les bénéficiaires effectifs, ne serait-ce que par... On sait qui est dans une société, qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa part. Enfin bref, il y a une part quand même de chiffon rouge qui est régulièrement agitée par certaines structures et certains syndicats.
Quel est le stéréotype, entre guillemets, l'image, le propriétaire rural? À quoi ressemble-t-il? Qui est-il? On parle souvent, nous, dans l'immobilier, du vieux propriétaire un peu rentier, dont il a subi quelques foudres en début de quinquennat par notre président de la République. Comment pourrait-on représenter le propriétaire rural un peu classique? Et qu'est-ce qu'il tend à devenir, surtout? C'est surtout ça, la question.
Alors, il tend à être de plus en plus nombreux. Je vous l'ai dit en introduction, mais peut-être en y passant un peu vite, 10 millions de propriétaires, mais au gré des morcellements dans les transmissions d'entreprises, nous avons de plus en plus de propriétaires. Comme leur part de patrimoine ne cesse de diminuer, l'intérêt et le temps qu'ils vont y consacrer, je veux dire d'un point de vue juridique, surtout quand le droit rural est vraiment une spécificité en soi, fait que le niveau d'information de leurs droits, de leur gestion est quand même très faible. On a un travail énorme à faire là-dessus. Et quand l'importance de ce patrimoine ne cesse, division après division, de se réduire, on sait que c'est pas leur préoccupation première. Ça, c'est un premier point. On a deux types de propriétaires. Le propriétaire, le portrait robot unique n'existe pas vraiment. On va avoir le propriétaire pure souche, si je puis dire, qu'on va traiter de rentier. Hein. On a les mêmes cas que dans l'immobilier avec la même image d'Épinal. On va trouver ça sur la façade ouest du pays pour des raisons historiques. Je vous dis ça de manière très synthétique. Et sur la façade est, on va avoir plus des propriétaires exploitants. Moi, c'est mon cas. J'ai 40 ans. Je suis propriétaire de vignes, propriétaire de terres et je suis également vigneron. Je suis des deux côtés de la barrière. Donc, ça permet aussi d'avoir une relation par principe un peu apaisée avec la compréhension viticole ou agricole puisque pour un certain nombre d'entre nous, nous sommes également exploitants et pas uniquement propriétaires. En ce qui concerne l'âge, je vous admets quand même qu'à 40 ans, je suis le plus jeune des présidents de syndicats départementaux. La plupart, c'est une problématique qui va arriver plutôt en fin de carrière quand on a soi-même hérité, etc.
Alors justement, l'âge des propriétaires, de manière générale, pose toujours la question de la transmission de l'héritage, de la transmission de ce patrimoine et au passage la préservation. Il y a dans certains cas des morcellements, dans d'autres cas des achats un peu sauvages par des investisseurs extérieurs, entre guillemets, ou même extérieurs au pays, vous parliez des Chinois. Est-ce que, alors là, ma question s'adresse plutôt maintenant à Jean-Étienne Rime pour France Silva. Est-ce que les conditions de transmission du patrimoine des forêts, mais c'est le cas pour les ruraux, c'est le cas pour l'immobilier aussi, sont satisfaisants aujourd'hui? Est-ce que les droits de mutation qui ne cessent d'augmenter, et je ne vous parle pas des impôts fonciers, vous en parlerez certainement mieux que moi, tout cela, est-ce que c'est suffisant pour préserver notre patrimoine, le pérenniser sans qu'il ne devienne un outil d'inflation énorme, un outil de spéculation, comme on peut le voir, par exemple, à Paris sur l'immobilier de luxe ou sur ce genre de choses, qui d'ailleurs, en temps de crise, tend à un peu baisser. Est-ce que c'est suffisant, Jean-Étienne Rime, la transmission du patrimoine en France?
Je trouve tout d'abord beaucoup de points communs entre notre ami de la propriété rurale et la forêt, notamment avec cette question de morcellement. parce qu'il y a un attachement un peu symbolique, un peu sentimental à la propriété dont on a pu hériter, mais en même temps, quand on a plus que 2-3 hectares de forêt, c'est quand même, ça devient très très difficile à gérer. Nous avons 3 500 000 propriétaires privés forestiers en France. C'est d'une part beaucoup trop parce que c'est le symbole de ce morcellement. C'est aussi un atout parce que l'on se rend compte que la forêt aujourd'hui est capable d'être populaire dans le sens que nous avons, si on multiplie par le nombre de familles, on présente quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français. Alors la question de la transmission ensuite, c'est le fantasme qui est sur la forêt. Il y a un fantasme de fiscalité. L'on ne cesse de dire la fiscalité forestière, c'est une niche fiscale. Erreur totale. Ce n'est pas une niche fiscale. C'est un aménagement de la fiscalité parce que, comme vous l'a expliqué votre propriétaire forestier témoin, on ne récolte pas tous les ans. C'est-à-dire que l'on paye un impôt qui est adapté à une récolte qui est irrégulière. Et nous sommes en effet dans cette tranche de temps. Nous travaillons avec un héritage de 150 ans et avec pour 150 ans devant nous, notamment si l'on fait, si l'on produit des chênes, par exemple. Dans un univers complexe, d'ailleurs, je le rappelle, nous avons aujourd'hui 136 essences forestières en France. C'est une formidable richesse. Les Scandinaves ont 3 essences forestières. Les Allemands en ont 20. Nous, aujourd'hui, on a cette richesse extraordinaire. Donc, cette fiscalité, j'y reviens, c'est une fiscalité qui est adaptée. Ce n'est pas une niche fiscale. Et là, nous luttons contre les financiers, les gestionnaires de patrimoine, etc., qui sont en train de faire fantasmer les Français en disant « Ah, monsieur ou madame, vous souhaitez un investissement sûr, transmissible facilement à vos enfants, qui rapporte peut-être pas grand-chose, mais qui ne se dépréciera pas dans le temps, acheter de la forêt. » C'est un raisonnement qui est absolument schématique, parce que une forêt, on l'a vu, elle s'entretient. Et si on n'entretient pas cette forêt, on n'a plus d'agrément sur ce plan de gestion et donc on n'a plus d'agrément fiscal. Donc il est absolument fondamental de l'entretenir. L'entretenir, c'est quoi? Ben, c'est assurer un équilibre sylvo-cynégétique. Il y a des endroits où on a trop d'animaux, on a trop de gibier. C'est assurer des coupes, des travaux, etc. Il y a tout ça qui doit être envisagé. Donc aujourd'hui, la forêt, elle est probablement surévaluée parce que vous avez des gens qui ont ce fantasme fiscal ou aussi le fantasme de retrouver la nature, et on trouve la même chose sur la propriété rurale, hein, sans imaginer que derrière, c'est un travail considérable et qui se fait tous les ans. Et puis, derrière ce fantasme, on a tous les fantasmes écologiques, etc., qui font que nous avons trop régulièrement d'ailleurs des associations environnementalistes qui souhaitent acheter des forêts et les gérer un petit peu comme les associations animalistes ont géré des zoos, notamment en Bretagne, de façon absolument calamiteuse. Et puis, nous avons les grands institutionnels qui achètent des grandes forêts, parce que c'est un placement pour les assurances, les banques et compagnie. Bon, ça, c'est un choix. On comprend les propriétaires qui cèdent quand ils ont besoin de céder, notamment lorsque la famille est trop nombreuse et que l'on ne sait pas rendre liquide les parts forestières. Là, nous travaillons chez Fransilva sur des instruments pour garder une propriété familiale. Et familiale, c'est important. Parce que familial, c'est un attachement des hommes, des femmes, des familles à la terre, à la forêt. Et plus aujourd'hui nos jeunes s'y intéressent, plus on va bien travailler. Dans ce sens, nous avons d'ailleurs créé une association de jeunes sylviculteurs qui s'appelle Forestfair. Ce sont les sylviculteurs qui ont entre 18 et 40 ans, qui se réunissent à Paris, à Nancy, à Bordeaux, à Nantes, pour comprendre la sylviculture et aussi partager des bons moments, parce que ça se finit toujours par une bière et un plateau de charcuterie, et je pense que la convivialité fait aussi partie de la forêt.
Merci pour cet encouragement à s'intéresser à la forêt. C'est intéressant de voir toutes les similitudes qu'on peut avoir entre les différents types d'investissements immobiliers, que ce soit la forêt, le rural, l'immobilier ou les demeures historiques. La question de la transmission et des véhicules de transmission, je voulais poser cette question à Olivier de Lorgeril. comment transmettre aujourd'hui dans une famille, puisqu'on parlait d'attachement familial, il y a quelque chose d'affectif, effectivement, à cette possession immobilière. Par quels moyens peut-on préserver la transmission des châteaux, des demeures historiques, etc., d'une famille? Est-ce que c'est des SCI? Est-ce que ce sont des SARL? Ou est-ce qu'une indivision bien organisée suffit? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce point?
Alors, j'espère que vous m'entendez. Je suis vraiment désolé de tous ces soucis. Alors, effectivement, vous avez dans les modes de détention des outils fiscaux qui sont assez puissants et qui existent surtout. Le principal problème de la transmission d'un monument historique ne se situe pas à ce niveau-là. C'est une problématique effectivement principalement psychologique et économique. Effectivement, vous l'avez dit tout au long de votre émission, c'est un attachement fort qu'on a à un monument historique et c'est la raison principale pour laquelle, eh bien, psychologiquement, les transmissions sont délicates. Le mode de détention principal des monuments historiques, c'est la détention en nom propre. Souvent, ce sont des familles. Vous avez un outil puissant, c'est bien évidemment c'est la SCI, parce que ça permet effectivement d'étaler les successions dans le temps et de faire en sorte que psychologiquement, les familles puissent s'adapter.
On va poursuivre donc sur cette thématique de la propriété. Je vais refaire un dernier tour de table pour faire le point sur est-ce que dans nos domaines respectifs, et je vais demander à notre grand témoin d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la propriété privée, de manière générale, est menacée en France? Est-ce que ces attaques se redoublent? Est-ce qu'il y a un danger sur la propriété, que ce soit dans sa transmission, dans sa réglementation, dans sa fiscalité? Jérôme, vous pensez qu'il y a quelque chose d'alarmant, d'intéressant, en tout cas un sujet sur lequel il faut travailler et davantage communiquer pour faire taire les fantasmes liés à la propriété privée?
Pour moi, le point de vigilance, c'est de troquer le tangible contre l'intangible, donc la propriété foncière, les immeubles, etc., contre des actions volatiles sur des marchés, etc. Je suis assez surpris, et j'aurais fait l'inverse, de voir la suppression de l'ISF et l'apparition de l'IFI. On détaxe l'intangible et on continue à taxer le tangible. Moi, c'est quelque chose qui me surprend.
C'est plus facile à taxer, ça s'en va pas à l'étranger.
Tout à fait. Et donc, c'est quelque chose qui me surprend. Concernant la forêt, donc mon cas, je trouve que c'est une fiscalité qui, comme ce qui a été dit, c'est adapté au temps long. C'est-à-dire que elle se justifie. C'est pas une niche, et ça faut vraiment le rappeler. Pourquoi trois quarts d'abattement? Parce qu'il y a trois quarts de bois et un quart de fond, de sol. Le propriétaire forestier paye le forfait cadastral tous les ans. Et il n'y a pas de raison que lorsqu'il coupe son bois, il paye encore des impôts sur le fruit de sa récolte. Et il n'y a pas non plus de raison de payer des impôts sur les successions, mais aussi sur l'IFI, sur tout ce qui est, enfin, sur le bois. On peut le payer sur le sol, donc sur le foncier, mais pas sur ce qui est en train de pousser.
Donc la fiscalité est quelque chose de prégnant, mais c'est vrai qu'en France, on a toute cette habitude de taxer les taxes. C'est le cas avec la CSG sur les revenus locatifs de privés. C'est vrai qu'en France, on a ce génie fiscal qui nous permet de taxer tout ce qui existe. Et quand ça, des nouvelles choses qui arrivent, on s'empresse de le taxer absolument pour le faire taire. Donc, c'est effectivement, la fiscalité est un point important de spoliation, entre guillemets, pour prendre des grands mots, sur la détention de la propriété privée. Jean-Étienne Rime, même question. Est-ce que la propriété privée est en danger? Est-ce qu'il faut la protéger davantage? Est-ce qu'il faut davantage parler à nos élus pour leur expliquer que la propriété a une importance indispensable dans la structure de notre société et dans sa stabilité?
Sur les questions forestières, nous avons une attaque relativement nouvelle et véritablement inquiétante. c'est l'attaque de certains environnementalistes qui considèrent que la forêt est un bien commun. Nous avons eu en 2020, à ma connaissance, au moins 7 rapports sur la forêt, dont un signé par des organisations qui, par ailleurs, font un travail remarquable. On travaille bien avec les environnementalistes. Hein. Je n'ai pas de grief majeur sur les gens qui font leur métier correctement, mais qui considèrent que la forêt est un bien commun. Et si la forêt est un bien commun, c'est une dénégation complète de la propriété privée. On ne peut pas accepter cela. Nous avons des fonctions économiques, environnementales et sociales liées au bois. Nous avons aussi d'autres fonctions que nous assurons totalement gratuitement, et on les assure bien. La biodiversité, par exemple, est une notion qui, aujourd'hui, prend toute sa dimension, et on a de plus en plus de sylviculteurs qui sont concernés, intéressés, formés sur ces sujets-là. Alors, laissons la responsabilité aux propriétaires, aux sylviculteurs tels que je les ai définis, c'est-à-dire des propriétaires responsables, engagés et avec une vision d'avenir, et laissons-nous gérer ces forêts. Si ces forêts sont gérées par des environnementalistes, on va arriver à des catastrophes. Et on s'en rend compte lorsque vous avez des départements qui achètent des forêts, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais comment est-ce qu'elles les gèrent? Elles les gèrent a priori justement pour faire des réserves naturelles, etc., etc., hein, avec énormément de difficultés. Ça coûte beaucoup plus cher parce qu'il faut beaucoup plus de personnel. Ça a des résultats qui sont moins bons parce qu'il n'y a pas obligatoirement cette vision moyen terme. Et aujourd'hui, on perd donc cette notion de propriété. Et je reviens à ce que disait votre grand témoin. Nous voulons être complètement propriétaires, mais nous sommes des propriétaires ouverts. L'ouverture des forêts, nous l'organisons chez Francilva avec, par exemple, la Journée internationale de la forêt qui a lieu au mois de mars. Il y a beaucoup de forêts privées qui sont ouvertes. Et pardonnez-moi de prendre un exemple contemporain et personnel. J'ai reçu, il y a quelques semaines, le conseil municipal de mon village qui ont découvert la forêt. Je reçois au mois d'avril prochain l'école communale. Nous avons reçu il y a 10 jours, Christelle Morancet, présidente de la région Pays de la Loire, qui s'intéresse à la forêt. Et vendredi prochain, nous recevons aussi dans une forêt des Pays de la Loire un ministre. Pour vous montrer que l'on reçoit aussi bien le ministre et l'élève, nous sommes ouverts, nous voulons expliquer, mais que l'on nous laisse nos responsabilités de propriétaires forestiers, nos responsabilités de sylvicoles. La forêt n'est pas un bien commun, la forêt est sous la responsabilité de ses propriétaires qui sont résolument engagés.
Merci pour ce témoignage et évidemment cette notion de propriété qui ne doit pas être collectivisée et qu'on ne retourne pas dans un système alors soit communiste, hein, disons-le clairement, soit tyrannique où tout à chacun et les propriétaires privés n'auraient pas cette faculté individuelle, cette liberté, puisque la propriété, je le rappelle comme dans mon introduction, c'est la liberté. Bertrand Trépeau, même question, pensez-vous que la propriété privée est menacée ou est-ce qu'il faut davantage la défendre? Est-ce qu'il faut être davantage dans le dialogue, comme on vient de l'entendre dans la forêt, inviter les gens et leur expliquer, faire de la pédagogie?
Tout à fait. Moi, je ne vais pas vous dire que c'est nouveau, ces attaques sur la propriété, parce que ce serait un peu facile pour un jeune de 40 ans qui vient de se mouiller dans le syndicalisme pour défendre la propriété depuis 4 ans, de vous dire que les temps sont pires qu'ils n'ont jamais été. Je pense qu'il y a toujours eu des attaques. Par contre, elles ont changé de forme. Et notamment, je rejoins vraiment, hein, c'est cette envie de bien commun qui est en train de monter dans la sphère publique, nous inquiète particulièrement et nous fait dire qu'on ne veut pas devenir la cage d'escalier des urbains. C'est tout ce qui est dans la nature n'appartient pas, n'est pas dans la collectivité. On a vraiment à défendre cette propriété privée rurale et forestière, comme on en parlait à l'instant. Alors, pour ça, il faut se tourner vers nos élus, il faut se tourner plus qu'on ne l'a fait, mais pareil, je ne vais pas vous dire que jusqu'à présent, c'était pas fait, mais il faut le faire autrement, plus. Et aussi se tourner, à mon avis, c'est là que les choses ont changé, vers le public. Alors, nous, on a C'est une chance, le développement de ce qu'on va appeler l'agritourisme et de l'œnotourisme, qui fait que de plus en plus de personnes viennent dans nos campagnes, sur nos champs, sur nos vignes, etc. C'est une occasion de leur montrer la qualité du travail, l'importance, et de passer des messages. Et c'est nous qui devons faire un pas de géant dans notre communication pour profiter de cette envie de campagne et de ruralité qu'on peut avoir chez un certain nombre de nos compatriotes pour passer les bons messages.
Et c'est aussi l'occasion de pouvoir déguster les fruits du travail et notamment du champagne avec modération, évidemment. C'est ça. J'en profite comme champenois de faire la promotion un peu de notre chère région. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je vais conclure cette émission en disant que effectivement, l'intérêt d'aller parler à nos élus, notamment avec l'émergence d'une nouvelle génération, il faut le dire, hein, avec l'arrivée d'un président extrêmement jeune, des députés, des élus locaux assez jeunes ou pas d'ailleurs, il ne faut pas faire du jeunisme absolu. Voilà, aujourd'hui, je peux annoncer la création de ce qu'on va appeler un club parlementaire de la propriété privée, dans lequel on va justement inviter nos élus pour discuter avec eux. Et je vous propose, tous ceux qui sont autour de cette table, mais tous ceux qui nous écoutent et qui s'y intéressent dans le monde institutionnel ou privé, dans les entreprises, s'ils sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas, ils prennent contact avec l'UNPI. Pour le moment, c'est simplement chez moi qu'on s'adressera. Mais si on s'entoure d'un maximum d'intervenants, d'interlocuteurs, représentant chacun son secteur lié à la propriété privée, et pour qu'on puisse échanger, dialoguer, réfléchir, faire des propositions, améliorer la situation, démystifier certains sujets, sortir du mythe du rentier, de l'exploitant, dans le mauvais sens du terme, et pas dans son magnifique sens qui est l'exploitation de la forêt, des terres ou d'un patrimoine immobilier de mise en location pour loger les gens, pour qu'ils soient proches de leur travail. Je reviens sur l'immobilier, avec ce formidable accès populaire. On le voit au nombre de propriétaires qui investissent dans ces différents domaines. C'est un investissement accessible, populaire, qui n'est pas volatile, qui n'est pas sur les marchés financiers, qui ne nécessite pas nécessairement de très grandes connaissances. Il faut simplement se former, s'informer, bien faire les choses, respecter la loi, aller dans nos associations pour faire les choses correctement et avoir une relation avec les parties prenantes apaisée et dans le dialogue. Merci à tous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de 25 millions de propriétaires.
25 millions de propriétaires. Une émission présentée par Pierre Otus, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.